Radio Okapi.
Tous évêques des diocèses des trois pays des Grands Lacs, RDC, Burundi et Rwanda, réunis pour 4 jours dans le Nord Kivu pour la paix dans la sous-région, plaident pour une communion d'efforts en faveur des déplacés, estimés à 53 000 dans le camp des déplacés de Lushagala. Membre de l'association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, il déplore la misère noire de ces Congolais, comme vous le suivez tout de suite en début de ce journal. Aligné également dans cette édition, ce SOS de la division provinciale des actions humanitaires dans le Haut-Katanga déménage des quartiers Brondo dans la commune de la Kenya, manque d'appui après l'inondation de leur maison par des eaux de la rivière Lubumbashi. Anne-Sylvie Linder, chef de la sous-délégation du CICR à Goma, invitée de nos journaux ce samedi, conseille aux belligérants des affrontements dans le territoire de Masisi de respecter les droits humanitaires internationaux afin de protéger les civils. Vous la suivrez en fin de ce journal. Restez donc branchés sur Radio Okapi pour en apprendre davantage sur ces aspects de l'actualité congolaise et bien d'autres. Aimable auditeur, merci de cet excellent choix pour votre édification et l'information. Bienvenue et meilleures conditions d'écoute à toutes et à tous. Bonsoir, Billy Van Lutumba devant ce micro pour la présentation. Paix dans les Grands Lacs, c'est le thème d'une initiative des églises d'Afrique centrale pour la paix dans la sous-région. Et c'est dans ce cadre que les évêques du Burundi, de la RDC et du Rwanda effectuent une visite de 4 jours depuis vendredi à Goma. Il s'agit des évêques de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale. Ce samedi, ces évêques ont visité le camp des déplacés de Lushagala à l'ouest de Goma. Ce camp abrite environ 53 000 personnes qui ont fui la guerre dans le territoire de Masisi. Au vu de leur vie misérable, ils invitent les acteurs de la région à adhérer à la construction de la paix pour éviter aux populations de continuer à croupir dans une telle souffrance. Rosalie Zawadi était sur place, voici son reportage.
Pour accueillir la délégation des évêques, les déplacés de Lushagala ont dansé au rythme culturel de la région. Et juste après, Sadik Intiba, vice-président de ces camps, a présenté aux évêques les conditions qu'ils traversent.
Vu que nous sommes dans le milieu qui n'est pas le nôtre, la population est attaquée par des maladies telles que les choléra, la rougeole, la malaria. Nous prions au gouvernement congolais de pouvoir restaurer la paix durable dans nos milieux respectifs pour que les déplacés puissent retourner chez eux.
Monseigneur Vincent Harolimana, évêque du diocèse de Ruwengeri au Rwanda et premier vice-président de l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, a pris la parole devant les déplacés au nom de la délégation.
Chers frères et sœurs, nous réalisons votre souffrance dans les cas de réfugiés ou de déplacés. Nous sommes sensibles à votre misère. Nous sommes venus ici vous manifester notre proximité pastorale. Prions pour que ces guerres cessent et que la paix règne dans notre sous-région.
Notons que les évêques ont apporté une assistance en matelas, couverture et savon pour les structures médicales de ces sites de déplacés. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, des affrontements sont rapportés ce samedi 27 janvier sous les différents axes en territoire de Masisi et Rutshuru, notamment dans la cité de Mweso, après une journée d'accalmie relative précédée par des tueries des civils dont les enfants et d'importants dégâts matériels causés par des bombardements. Des affrontements sont également signalés à Karuba et Mushaki dans la chefferie de Bahunde, mais aussi à Butale et Kibashiro monastère dans la chefferie de Bachali. Sifa Maguru.
Toutes nos sources sont unanimes. La situation demeure tendue et confuse à Mweso. Des violents combats sont enregistrés en Mbuhi, Bukama et Butale, tout autour de Mweso. Cette situation a conduit plusieurs acteurs locaux à abandonner ces milieux. C'est le cas notamment des agents des ONG humanitaires internationales et locales qui interviennent dans la zone. D'autres ont réduit sensiblement leur personnel sur place. Il est difficile de rester à Mweso. On a résisté, mais les choses deviennent très difficiles, raison pour laquelle nous jugeons bon d'abandonner la zone en attendant le rétablissement de la paix et la sécurité, témoigne un agent humanitaire joint par Radio Okapi ce samedi matin. Sur l'axe Karuba-Mushaki, des combats se concentrent à Bushuhe et aux antennes. La situation est identique à Kabati, sur l'axe Kilolirwe. Selon nos sources, plusieurs véhicules seraient bloqués depuis ce matin au niveau d'un tour à Kilolirwe. Des détonations d'armes lourdes sont également entendues dans la chefferie de Bachali et Kiahemba dans la chefferie de Bwito, rapportent nos sources. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
La délinquance juvénile a atteint un niveau inquiétant dans le secteur de Bapéré, c'est dans le territoire de Lubero. Selon la société civile locale, de nombreux jeunes s'adonnent à la consommation abusive des boissons fortement alcoolisées et de chanvre. Pour certains, c'est devenu une habitude. Mais d'autres profitent des veillées mortuaires pour s'enivrer. Samuel Kakuleba appelle les parents ainsi que les différentes structures des jeunes à prendre conscience de cette situation qui risque d'hypothéquer l'avenir même de cette localité. Il a été joint par Guylaine Kassassia.
Depuis avant-hier, nous avons effectué des tours de ronde. Les jeunes ne dorment pas vite. Les actes qu'ils posent, en tout cas ce sont des actes qui ne donnent pas un avenir meilleur pour cette jeunesse. Chose grave, pendant les deuils, ces gens se livrent à prendre des chaves dans les cafés. Il justifia ceci comme moyen de ne pas passer une nuit. Nous avons vu toutes les catégories de gens. Les enfants de moins de 10 ans, les enfants de moins de 15 ans, les enfants de moins de 18 ans, voire même des gens au-delà de 18 ans. Alors, nous appelons les parents de jouer leurs responsabilités parce que cette jeunesse constitue le secteur de Bapéré de demain. Mais si on laisse cette jeunesse comme ça, notre secteur aura un avenir sombre. Nous appelons aussi les services de la protection des enfants de nous aider pour que ceux-là qui utilisent ses enfants puissent aussi être appelés à justice. Les associations des jeunes, de renforcer l'éducation au service de sécurité, de voir comment renforcer leur stratégie pour décourager cette jeunesse. Les enfants ne doivent pas passer toute une nuit de 21h jusqu'à X temps. André toujours de déambuler sans s'inquiéter.
Sud Kivu à présent, naufrage d'une pirogue motorisée signalée sur le lac Kivu au large de Karulo à Idjwi Nord dans cette province. Ça se passait ce vendredi en début de soirée. Trois passagers sont morts et le conducteur de la pirogue est porté disparu. Le chargé des opérations à la force navale à Bukavu qui livre l'information renseigne que la pirogue en provenance de Bukavu vers Bogarula serait surchargée. Elle transportait 20 sacs de ciment en plus des passagers dont le nombre reste inconnu. La force navale dit attendre d'amples précisions de la DGM qui devra fournir les détails si l'armateur de l'embarcation a retrouvé le manifeste. La division provinciale des actions humanitaires tire la sonnette d'alarme. Plusieurs ménages des quartiers Brondo dans la commune de la Kenya, Lubumbashi, sont sans abri. Nous sommes dans le Haut-Katanga. Leurs maisons situées le long de la rivière Lubumbashi sont inondées. Le chargé des catastrophes et urgences humanitaires à ces divisions en donne d'amples détails. Lazare Kingombe Farai est au micro de Jean Lando.
Des fortes pluies qui se sont abattues à travers la ville de Lubumbashi, ça a causé beaucoup de dégâts énormes en pertes matérielles. Mais il y a eu des gens qui se sont déplacés pour le moment. Il y a des cris. Il y a ceux-là qui commencent à regagner des maisons, mais généralement, ce qui concerne le quartier Brondo, dans la commune Kenya, c'est là où il y a des gens qui ont déménagé complètement leurs maisons. Et jusqu'à l'heure que je vous parle, les maisons sont toujours dans l'eau et cette situation nécessite, en fait, une intervention des autorités compétentes. Cette situation ne permet pas ce que les gens vivent correctement. Je lance l'appel aux autorités de penser par rapport à cette population qui vit à proximité de la rivière de Lubumbashi, notamment celle des quartiers Brondo, dans la mesure où il y a moyen de penser autrement pour qu'ils soient délocalisés par cette situation récurrente à chaque période de pluvieuse. Actuellement, c'est environ 900 ménages et ces gens sont en errance. D'autres se casent dans des familles voisines, mais la situation reste toujours à désirer.
Ici à Kinshasa, dans la commune de Lancélé, la gestion des déchets est un véritable cauchemar. À Bibwa comme à Kinkolé, les habitants se plaignent de constater la montée en puissance de l'insalubrité dans ces contrées, pourtant réputées propres il y a quelques années. Le point dans ce reportage de Marc Tchata.
Malgré sa bonne réputation en tourisme, Célé est en l'état d'être commune quinoise confrontée à un problème d'insalubrité. Dans certains quartiers, le besoin d'évacuation des déchets devient urgent. Les causes de cette insalubrité sont multiples, notamment l'absence des mécanismes d'évacuation des déchets. Daniel Kinzolele, habitant de Kinkolé.
Kinkolé est presque sale comme partout. D'ailleurs, ce qui est plus grave, Kinkolé n'est pas urbanisé. On ne trouve rien comme installation pour jeter les poubelles.
Un autre facteur à la base de cette insalubrité, ce sont des marchés pirates qui se sont formés le long du boulevard Lumumba et sur les grandes avenues. Le bourgmestre de Lancélé déclare avoir fait de l'assainissement de sa commune une priorité.
Dès que j'avais pris mes fonctions, j'avais commencé à conscientiser d'abord la population. Mais je me rends compte qu'il y a d'autres qui ne manifestent pas vraiment du tout. Et je pense que je dois encore les conscientiser pour permettre à ce que ce soit une commune plus propre.
Franck Mo a également promis des sanctions contre tous ceux qui polluent l'environnement.
on doit encore notamment prendre de certaines mesures trop dures pour que ces gens-là puissent commencer d'abord à craindre l'État lorsque nous nous entretenons et ils sont censés maintenir cet environnement que nous laissons en tant qu'autorité.
Les habitants de Lancelé plaident pour l'installation des poubelles publiques afin de lutter contre l'insalubrité.
Nous parlons à présent de cette matinée fiscale organisée ce samedi à l'intention des jeunes de la capitale congolaise. Le conseil de la jeunesse de Kinshasa les a réunis dans l'amphithéâtre des affaires étrangères pour une sensibilisation au civisme fiscal, la lutte contre les antivaleurs et la bonne gouvernance pour le développement durable de la RDC. Suivez ce reportage de Greta Lulendo rendu par Noëlla Luzitu Kisiki Kabambi.
Initiation de la jeunesse quinoise à la culture fiscale, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance en RDC, c'est le thème développé au cours de la dite matinée. L'un des conférenciers invite les jeunes à la responsabilité.
La fiscalité, et comment est-ce qu'ils peuvent être interpellés pour commencer à pouvoir participer au relèvement de notre richesse en payant les impôts et en luttant contre les antivaleurs.
Pour qu'il y ait développement économique durable de la RDC, la jeunesse doit apprendre le civisme fiscal et doit changer ses mentalités, estiment quelques jeunes qui ont pris part à cette matinée de sensibilisation.
C'est à nous tous de décider d'arrêter. On doit décider d'arrêter les antivaleurs, notamment la corruption, et arrêter aussi la complicité. Des fois, nous voyons des corrompus, mais on ne dénonce pas. Nous devons vraiment arrêter que la justice doit également faire son travail. Lorsque l'IGF publie des rapports, la justice doit s'en saisir.
Moïse Mundongo, président du conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa, invite le jeune à soutenir les institutions du pays.
J'appelle la jeunesse quinoise, j'ai la charge de les représenter, d'être unis autour de nos institutions, de soutenir nos institutions, pour que nous puissions connaître un pays fort que nous voulons construire, que nous voulons bâtir ensemble.
Notons par ailleurs que les jeunes participants louent cette initiative. Ils demandent au président du conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa d'organiser régulièrement ce genre d'activité.
Dans la province du Bazouélé, plus de 300 chefs d'établissement de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et technique du territoire des Poko participent depuis le 26 janvier courant à une session de renforcement des capacités. Ces assises de 3 jours sont organisées par le chef de la sous-division de l'EPST Poko. Qu'est-ce qui a motivé son organisation? Le point avec Jacques Moukonkole.
Ces assises interviennent au terme de différentes missions d'itinérance organisées par le chef de la sous-division de l'EPST Poko 6 mois après sa prise de fonction. Au total, 52 missions selon Floribert Abadipone. Toujours selon lui, il a constaté plusieurs faiblesses dans le chef de la plupart de ses collaborateurs. Voilà qui motive la tenue de cette conférence des chefs d'établissement de son ressort. Parmi les thèmes abordés figurent notamment l'amélioration de la qualité des enseignements, le fonctionnement des organes de gestion d'une école, la problématique de l'exploitation des manuels scolaires, l'établissement d'un procès verbal d'une action disciplinaire, ainsi que la responsabilité d'un enseignant devant Dieu et devant les hommes font également l'objet des exposés des orateurs. Floribert Abadipone, sous-préfet de Poko, exprime ses attentes à la fin de cette conférence.
Nous entendons que nos chefs d'établissement auront la capacité de bien gérer leurs écoles, de faire une bonne gestion administrative, une bonne gestion pédagogique, une bonne gestion financière, être leadership dans son école, et cela va nous amener à améliorer la qualité de notre enseignement.
Les rideaux de cette rencontre vont tomber ce samedi dans l'après-midi à Poko. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À 18h13 de Kinshasa, nous vous parlons de l'actualité en dehors de la RDC. Le sommet Italie-Afrique s'ouvre à Rome ce dimanche. Plus de 50 délégations des pays africains y sont attendues sur 2 jours, ainsi que des dirigeants européens et représentants d'organisations internationales. Avec cette conférence, le gouvernement italien veut présenter son nouveau plan stratégique qui a pour but de réévaluer l'approche du pays à l'égard du continent africain. Cela fait partie des priorités du gouvernement de Giorgia Meloni qui devrait en faire un point central du G7 qu'elle présidera au mois de juin. Le plan devrait coûter environ 3 millions d'euros par an et avoir une durée de 4 ans. L'objectif est de renforcer la coopération énergétique avec les pays africains et de les appuyer dans différents domaines, notamment la santé, l'éducation et d'autres secteurs, mais son but principal est de s'attaquer aux causes économiques profondes des migrations massives en provenance d'Afrique. Et puis, Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que les crimes présumés d'Israël à l'encontre des Palestiniens de Gaza ont été mis à nu dans l'arrêt rendu vendredi par la Cour internationale de justice. Le tribunal a statué dans une ordonnance préliminaire qu'Israël devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour prévenir tout acte de génocide dans le cadre de son offensive à Gaza. Il s'agit d'une première étape importante dans notre quête de justice pour la population de Gaza. Malgré certaines critiques, c'est bien notre rôle en tant que peuple qui connaît trop bien la douleur de la dépossession, de la discrimination et de la violence parrainée par l'État, soutient le dirigeant sud-africain.
L'invité.
Dans le Nord Kivu, le comité international de la Croix-Rouge CICR se dit préoccupé par l'impact des combats sur les populations civiles à Mouesso. Dans cette cité du territoire de Massissi, un engin explosif a touché jeudi une maison qui abritait des civils, tuant plusieurs et blessant plusieurs autres. La chef de la sous-délégation du CICR à Goma invite les belligérants au respect du droit international humanitaire en évitant les affrontements dans les zones densément peuplées. Anne-Sylvie Linder est notre invitée dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Anne-Sylvie Linder, bonjour.
Oui, bonjour Rosalie et bonjour à vos auditeurs.
Depuis 3 jours, il y a des affrontements dans et autour de la cité de Mouesso. Jeudi, un bombardement a fait plusieurs victimes au sein de la population qui recommande les droits internationaux humanitaires dans les zones habitées où il y a les affrontements.
Alors, oui, effectivement, depuis plusieurs jours, on enregistre des combats dans et autour de la ville de Mouesso. Ces combats, ils ont engendré en fait des blessés et des morts parmi les civils. En date de jeudi, il y a effectivement un engin qui aurait atterri sur une maison civile, tuant et blessant plusieurs personnes parmi les civils. Il y a aussi apparemment des combats qui auraient eu lieu près de l'hôpital et près de la paroisse. Le CCR est très préoccupé par cette situation et rappelle à toutes les parties qu'ils doivent éviter de mener des affrontements dans des zones densément peuplées, comme c'est le cas de Mouesso, de manière à absolument éviter des dommages au niveau des pertes humaines et au niveau aussi des biens civils.
Sur terrain, dans les territoires des Massissi, certaines sources affirment que des combattants se cachent au sein de la population pour éviter d'être directement ciblés. Que dit les droits internationaux humanitaires aussi à ces sujets?
Alors le CICR rappelle que toutes les parties ont l'obligation de prendre ce qu'on appelle toutes les précautions possibles afin d'éviter ce dont je parlais maintenant, qui sont les affectations de personnes civiles ou de biens civils. En fait, il y a trois principes. Les trois principes dont on parle lors d'affrontements armés, c'est le respect de la précaution, donc justement de faire attention à ce que les civils ne soient pas touchés, la proportionnalité et aussi la distinction, c'est-à-dire en tout temps de faire la distinction et de pouvoir faire la distinction entre les civils et les combattants. Comme tu le sais, ce rappel il est fait constamment de la part du CICR et de manière confidentielle et bilatérale aux porteurs d'armes. Et on rappelle constamment que ces règles doivent être appliquées lors d'affrontements armés. Mais il faudra absolument que les parties essayent d'éviter d'avoir des affrontements au niveau de villes comme Mouesso, afin d'éviter justement qu'il y ait qui est des dommages comme ceux subis hier par la population civile.
Et en parlant de ce rappel du droit international humanitaire, l'année dernière, vous avez eu des activités dans ce sens au Nord Kivu avec les différents belligérants?
C'est une action qui est comprise dans toutes nos activités. C'est quelque chose qu'on fait de manière constante et avec tous les porteurs d'armes. C'est un dialogue dont on ne parle pas parce qu'il est bilatéral et confidentiel. Et il cherche avant tout à prévenir d'autres incidents tels que ceux qui se sont passés hier à Mouesso.
Et à l'intention d'une population qui se retrouve au milieu des feux, qu'est-ce qu'elle peut aussi faire pour se protéger?
Je crois qu'il y a pas mal d'entre elles qui s'est protégée autour de l'hôpital, d'après les informations que j'ai reçues de la part de MSF justement. Pas mal de gens se sont réfugiés dans l'enclos de l'hôpital. Aujourd'hui, apparemment, ces gens, dans leur grande partie, sont sortis de la ville de Mouesso de manière à préserver leur vie et leur intégrité. C'est-à-dire aussi à cette population que pour le moment, il n'y a pas les conditions sécuritaires pour qu'on puisse, on puisse leur venir en aide, mais que dès que ces conditions sécuritaires seront rétablies, nous acheminerons vers Mouesso et ses environs pour voir un petit peu, faire une évaluation des besoins de ces communautés.
Anne-Sylvie Linder, je rappelle que vous êtes chef des sous-délégations du CICR à Goma. Merci.
Merci à vous.
Fidèles auditeurs, nous vous rappelons que vous êtes aussi branchés sur Radio Okapi. C'est la fin de cette édition de journal préparée par Noël Aluzitu, Jacques-Yves Molima et l'ensemble de toute la rédaction. Billy Yvan Loutoumbe était devant ce micro pour la présentation, a assuré la prise des soins et la mise en onde. Polydor Basunga. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 19h de Kinshasa.